Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute du programme Langue française de Radio Prague. Comme chaque samedi, trois rubriques figurent au sommaire de ce programme. Place sera donc faite à la littérature ainsi qu'au tri de votre courrier comme tous les 15 jours. Mais on commence tout d'abord avec la culture. Alors que le coup d'envoi de la 47e édition du Festival international du film de Carlo Vivari a été donné vendredi soir, nous vous proposons la deuxième partie d'un entretien exclusif avec Eva Zauralova, ancienne directrice artistique du festival, devenue simple conseillère, mémoire vivante du festival qu'elle a suivi avant 1989 en tant que journaliste, puis à partir des années 1990 dans l'équipe organisatrice. À 80 ans, Eva Zauralova est une boule d'énergie qui voue au cinéma un amour sans bornes. Dans la suite et la fin de notre entretien, Eva Zauralova explique pourquoi le cinéma tchèque d'aujourd'hui peine à s'exporter, mais avant cela, elle est revenue au micro d'Anna Kubišta sur l'âge d'or du cinéma tchécoslovaque dans les années 1960. Eva Zauralova.
Culture sans frontières.
À cette époque-là, je ne fréquentais pas comme le festival de Carlo Vivari. Et je connaissais personnellement plusieurs réalisateurs de cette génération parce qu'on fréquentait le même club du cinéma. Mon mari a travaillé toujours à la faculté. Il est devenu assistant du recteur de la faculté. Donc, on était très liés à cette ambiance et je connaissais personnellement Eval Chorm, Vera Chytilová, Jan Niemetz, Jireš, Menzel. Et on admirait beaucoup leur talent et on admirait beaucoup leurs films. Mais c'était plutôt notre milieu des intellectuels parce qu'au cinéma, sauf les films de Miloš Forman, les premiers films de Miloš, L'As de pique ou Les amours d'une blonde, alors ça c'était les films qui ont eu aussi un succès public, tandis que les films de Vera Chytilová beaucoup moins, ou les films de Menzel, oui. Menzel, il a déjà eu avec son premier film, Les trains rigoureusement surveillés. Il a eu non seulement l'Oscar, mais il a eu beaucoup de spectateurs et il est devenu un classique du cinéma tchécoslovaque.
C'est étrange parce que souvent, quand on parle de la nouvelle vague tchécoslovaque, on a l'impression que tout le monde connaissait en fait ces films. Et vous dites que c'était plutôt quand même un cercle.
Non, c'était plutôt des cinéphiles qui les connaissaient. Parce que ma mère, par exemple, c'est peut-être un exemple de l'opinion publique. Elle a vu, après quelques années, on présentait à la télé le film de Eval Chorm qui s'appelait Každý den odvahu, le courage quotidien.
Du courage pour chaque jour.
Pour chaque jour. Mais de toute façon, le film passe. L'histoire d'un jeune communiste qui a une crise d'identité, on peut dire, parce que d'un jour à l'autre, il commence à douter des convictions et des idées qu'il a approuvées depuis son âge très, très tendre. Et ma mère, quand on a vu le film, m'a dit, alors je n'ai jamais vu une telle stupidité. Non, parce que c'était des films qui, pour le grand public, c'était ennuyé. C'était quelque chose que les gens, c'est-à-dire les gens de tous les jours, ne savaient pas apprécier. Je ne sais pas comment ils sont reçus aujourd'hui quand ils passent à la télévision. C'était des films, vraiment des vrais films pour les festivals. Et donc, alors, ils ont fait connaître le cinéma tchèque à l'étranger. Bien sûr, le cinéma tchèque à l'étranger, il était déjà connu parce que Jiří Trnka, il était beaucoup admiré.
Karel Zeman aussi.
Il présentait leurs films à Cannes. Il était apprécié beaucoup, le cinéma d'animation.
Mais c'était d'animation, pas des films...
Mais vous voyez que, par exemple, quand je suis venue à Cannes pour la première fois, il y avait deux films tchèques en compétition.
C'était en quelle année? C'était 69, c'est ça?
69, oui. L'année avant, le festival a été contesté et pratiquement il a été interrompu.
C'est ce qui a sans doute d'ailleurs coûté à Miloš Forman un prix pour Au feu les pompiers.
Oui, à Menzel et à Miloš Forman, à Menzel pour l'été capricieux. Pour Miloš Forman pour le film Au feu les pompiers, et à Niemetz c'était Oslavnosti a hostech, c'était de la fête et des invités. Bon, alors ils n'ont pas eu la chance ni de présenter leur film. Et l'année 69, il y avait encore le film de Vojtěch Jasný, Tous mes compatriotes, et il y avait aussi le film de Evald Čorm, Farážův konec, Fin d'un bédo. Et le film de Vojtěch Jasný a eu le prix de la mise en scène à ex aequo avec le film de Glauber Rocha, Antonio das Mortes. Alors c'était un grand succès. Mais et c'était l'année où ici, en Tchécoslovaquie, la normalisation n'a pas encore éclaté. Mais déjà le film de Jaromír Jireš, Gert, d'après
La plaisanterie.
Kundera, La plaisanterie, ne pouvait pas sortir. Alors on a on ne l'a pas envoyé à Cannes.
Justement, puisqu'on parle alors évidemment de ce cinéma tchécoslovaque, cet âge d'or un peu du cinéma tchécoslovaque, que pensez-vous de la situation actuelle du cinéma tchèque aujourd'hui, qui finalement, à part quelques films, vont à l'étranger, certains comme Bohdan Slama par exemple, puis Alois Nebel a eu un petit succès quand même hors des frontières de son pays, mais qu'est-ce qui manque au cinéma tchèque aujourd'hui pour qu'il ait cette qualité finalement comme à l'époque?
Mais moi, je dis toujours à mes jeunes amis tchèques, les réalisateurs, que ce qui leur manque, c'est le contact avec le cinéma, avec le langage moderne du cinéma. Parce que ici, vous n'avez que les blockbusters américains qui sont en distribution et qui sont appréciés par le grand public. Tandis qu'avant, les réalisateurs, même les réalisateurs de la Nouvelle Vague, ils n'avaient pas l'occasion de sortir du pays. Mais ils connaissaient tout. Ils connaissaient la Nouvelle Vague française, le cinéma italien, parce qu'on organisait ces projections des films pour eux. Et comme ça, alors, ils ont tout de suite compris qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'air, parce que Antonioni, c'était quelqu'un qui a été très apprécié par les ciné, par les intellectuels, Fellini bien sûr, mais même les films qui n'étaient pas en distribution, ils ont eu l'occasion de les voir. Et je crois que la génération qui les a suivis après le changement politique, ils n'ont pas eu cet intérêt au développement du langage du cinéma. Alors, ils sont un peu nombrilistes, même en sens un peu général, parce qu'ils ne parlent que de leur monde, de leur petit monde qu'ils connaissent. Et ils cherchent toujours soit à gagner l'intérêt du grand public, soit à faire quelque chose de très expérimental, de très, très spécial.
Il n'y a pas juste milieu, en fait.
Il n'y a que Bohdan Slama qui a cette idée, qui vit vraiment, c'est-à-dire il est un bon observateur de la vie des gens, comme l'était Menzel, par exemple, à l'époque. Tandis que les autres, ils discutent le cinéma, mais ils cherchent de gagner beaucoup d'argent, d'avoir les villas, d'avoir la vie un peu mondaine, mais ils perdent le contact. Ils ne vont pas. Ils peuvent, par exemple, se payer le voyage à Cannes. Alors, s'ils venaient à Cannes, ils se rendraient compte qu'est-ce qu'il y a que le festival de Cannes veut, les gens qui organisent le festival de Cannes, les gens qui font la sélection des films, qu'est-ce qu'ils attendent des films? Parce qu'ils proposent toujours leurs films, par exemple Lidice. Alors le producteur de Lidice, tout de suite disait partout, ah, c'est un film fait pour Cannes, on va en compétition. Mais il n'avait pas l'idée de quoi les dramaturges du Festival de Cannes attendent, parce que ce n'est pas le genre de cinéma. C'est un genre de cinéma qui peut intéresser beaucoup le pays. Il peut même avoir une distribution, peut-être une distribution limitée à l'étranger, peut-être à la télévision, parce que le thème est très intéressant et c'est pas mal fait. Mais ce n'est pas un film pour Cannes, ni pour Venise, c'est ça. Ils ne savent pas quoi les gens qui organisent les festivals attendent.
Puis c'est étonnant parce que souvent, moi j'ai déjà entendu des réflexions comme quoi c'est normal que le cinéma tchèque ne va pas à l'étranger, on est un petit pays, etc. Mais finalement, quand on regarde le Danemark, qui est un petit pays, ils ont un cinéma incroyable qui est vraiment arrive à faire passer des messages. Moi, je pensais à des réalisateurs comme Susanne Bier ou Anders Thomas Jensen, etc.
Mais,
ils sont incroyables.
Prenez les Roumains. Le cinéma roumain, la vie en Roumanie est beaucoup plus difficile qu'ici. Même les libertés sont beaucoup plus limitées qu'ici. Peut-être, je ne sais pas. Mais la situation économique, même la situation économique des réalisateurs, doit être beaucoup différente de la situation des nôtres. Et ils se demandent, les jeunes tchèques, c'est-à-dire les jeunes qui ont 40 ans aujourd'hui, ils se demandent pourquoi on ne prend pas les films tchèques dans les festivals, mais pourquoi on prend les films roumains. Alors ils devraient les voir pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce type de cinéma, parce que ce sont des films qui vraiment s'intéressent des thèmes quotidiens, mais même en même temps philosophiques. Parce qu'ils dépassent leur message, toujours dépassent l'histoire qu'ils racontent.
Voilà, c'était donc un entretien avec Eva Zauralova, ancienne directrice artistique du Festival international du film de Karlovy Vary qui a, rappelons-le, ouvert ses portes vendredi soir. Et puis place maintenant, comme tous les 15 jours, à l'une de vos rubriques préférées pour cause, puisqu'elle vous est consacrée, ou elle est consacrée plus précisément à votre courrier. Et pour cela, on retrouve Paul Bauer.
Courrier des auditeurs.
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité et de vos nombreux courriers et réactions aux articles et rubriques que nous vous proposons quotidiennement. Les vacances approchent avec la fin des championnats d'Europe de football qui se tiennent jusqu'à dimanche. Aujourd'hui, nous sommes avec Vachek Richter. Bonjour Vachek.
Bonjour. Commençons par le football qui a attiré l'attention de plusieurs d'entre vous. Bien que l'équipe de la République tchèque ait été éliminée durant les quarts de finale, l'un de nos fidèles auditeurs, André Bio, n'a pas manqué de nous écrire pour s'enthousiasmer de la prestation de la Reprezentace, l'équipe tchèque de football, qui malgré les difficultés a suscité beaucoup d'admiration lors de son dernier match de poule. Dans son courrier du 17 juin, alors que la République tchèque est encore en lice dans le tournoi, André Bio nous écrit.
Bravo à l'équipe tchèque de football pour sa qualification pour les quarts de finale de l'Euro. On connaîtra leur adversaire ce soir. Si les Tchèques doivent jouer contre le Portugal, je pense que tout est possible pour une qualification pour les demi-finales. Quoi qu'il arrive, ceci est déjà un résultat que beaucoup de Tchèques, sans doute, n'espéraient pas. Je croise les doigts pour la suite.
L'équipe de République tchèque de football n'a pas participé aux demi-finales du championnat d'Europe. Rappelons qu'elle a été privée durant une partie du championnat de son principal attaquant Tomáš Rosický. Elle a toutefois réalisé un retour positif dans la compétition après le match catastrophique face aux Russes en début de phase de poule. Hélas, elle n'a pas su imposer une véritable attaque face au Portugal, 0-1. en quart de finale à Varsovie. L'unique but du match a été inscrit par Cristiano Ronaldo à la 79e minute au plus fort de la domination portugaise. Rappelons également que l'équipe tchèque a suscité un véritable soutien de la part des Polonais, dont l'équipe nationale a été prématurément éliminée. Dans l'un de ses articles datés du 19 juin, Guillaume Narguet est revenu sur le vibrant hommage que les supporters polonais ont rendu aux joueurs tchèques en les applaudissant longuement au terme du dernier match face à la Pologne. Une façon de faire comprendre aux joueurs de la représentation que c'était désormais la République tchèque que les Polonais allaient soutenir.
Nous tenons également à remercier nos lecteurs de ne pas hésiter à fouiller dans les archives de nos articles et rubriques et de demander des précisions sur certains points. Christophe Rocher se demande ainsi à la lecture d'un de nos articles daté du 26-08-2006, consacré aux formes des noms de famille. Depuis combien de temps la forme féminisée du nom de famille existe en République tchèque et s'il s'agit d'une tradition créée sous la première République tchécoslovaque? Il nous écrit ainsi.
Je voudrais savoir de quelle époque date le fait que le nom de famille se met au féminin pour une femme. Est-ce que cela date de l'époque tchécoslovaque ou est-ce que cette situation était déjà présente pendant l'Empire austro-hongrois et bien avant? J'espère que vous pourrez m'éclairer. Ayant une ancêtre tchèque éloignée, année 1850, qui ne portait pas de suffixe féminin à son nom, j'aurais voulu comprendre.
Une bonne question en effet à laquelle il est difficile de répondre. On trouvera toutefois quelques éléments de réponse dans la lecture de l'article d'Alexis Rosenzweig, daté du 29 novembre 2011, article dans lequel on apprend que l'usage de l'orthographe de la forme féminisée des noms de famille ont évolué au cours du temps. Le suffixe « ova », si je reprends les mots d'Alexis Rosenzweig, était dans le passé un « ova » sans accent à la fin sur le « a », qui, selon la grammaire tchèque, voulait vraiment signifier la femme de quelqu'un, celle de tel homme. Cette terminaison qui marque le génitif, un cas grammatical qui exprime la possession, est présente dans de nombreuses langues d'Europe centrale. On la trouve dans l'ensemble des langues slaves, le slovaque, le russe, le polonais, le serbe, etc. Quant à l'origine de son usage, il semble aussi ancien que la langue tchèque. Il est vrai toutefois que selon les époques, la féminisation des noms de famille ne touchait pas toutes les personnes, puisque jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une partie de la population des pays tchèques était de langue allemande, langue dans laquelle le suffixe « ova » ne s'applique pas. L'usage dépendait donc de l'appartenance des individus à telle ou telle communauté linguistique du pays.
Pour terminer notre revue du courrier que nous avons reçu ces deux dernières semaines, nous remercions nos lointains fidèles auditeurs Motofu Mikai et Osamu Aikawa qui nous écrivent régulièrement du Japon où la saison des pluies et celle des hortensias, merci pour les belles photographies, vient de commencer. Ici à Prague, les premières canicules estivales viennent de passer et les vacances d'été de commencer. Motofu Mikai profite de ces considérations météorologiques pour nous rappeler que, tout comme Radio Prague en 2011, la radio hollandaise internationale devrait mettre un terme à la diffusion de ses programmes sur ondes courtes. Les temps ont vraiment changé, conclut-il. En effet, le monde change, mais l'information continue. Elle utilise aujourd'hui d'autres canaux de transmission et Radio Prague poursuit sa mission d'information via le réseau satellite et Internet. Un moyen pratique et simple de réécouter les archives de nos programmes.
Et pour terminer cette rubrique consacrée au courrier des auditeurs, notre question du mois. Testez vos connaissances sur la République tchèque. Chaque premier jour du mois, vous trouverez une nouvelle question à notre jeu concours. Parmi les bonnes réponses, 6 vainqueurs seront tirés au sort et recevront un prix. Envoyez donc vos réponses avant le 30 juin à l'adresse suivante cr@radio.cz.
Vous trouverez les noms des vainqueurs sur nos pages destinées au courrier des auditeurs. La question du mois de juin est la suivante. Comment s'appelait le président américain qui a activement soutenu la création de la nouvelle Tchécoslovaquie, qui a rencontré Tomáš Garrigue Masaryk et qui, depuis l'automne dernier, a sa statue en face du bâtiment d'une gare de Prague?
Donc, à vos postes, écrivez-nous et surtout continuez de nous écrire nombreux et régulièrement. Merci encore pour vos lettres, vos commentaires et remarques. À très bientôt. Ahoy.
À bientôt.
Les 24 et 26 juin, la compagnie Irina Brook a présenté à Hradec Králové, en Bohême de l'Est et à Prague, un spectacle basé sur l'Odyssée d'Homère. quatre comédiens seulement réussissent d'évoquer par ce spectacle les aventures d'Ulysse, un héros mythique qui n'en finit pas de renaître grâce à la littérature, les arts et le théâtre. Les comédiens Ismahan Yakini, Raphaël Le Guyon et Tony Mpudja ont bien voulu partager avec Radio Prague et au micro de Václav Richter cette expérience unique qu'a été le travail sur cette odyssée revisitée donc par Irina Brook.
Rencontre littéraire. Qui n'a pas rêvé en lisant ou en écoutant les récits sur les aventures d'Ulysse, ce héros proche des dieux et pourtant tellement humain? Il nous fascine depuis des millénaires par son courage, mais nous l'aimons plutôt pour ses fautes, parce que c'est dans ses fautes qu'il nous ressemble. Et nous l'admirons aussi pour son esprit et ses ruses qui lui permettent de sauver sa peau, même dans les situations désespérées. L'épopée d'Homère qui raconte ses aventures ne cesse d'inspirer des écrivains et des artistes, et chaque époque, chaque génération ressent le besoin de raconter de nouveau ses exploits et d'y ajouter ses propres élans, ses aspirations et ses espoirs. Car l'Odyssée est également une œuvre sur l'espoir qui finit par se réaliser. Récemment, la compagnie Irina Brook a apporté à Prague et à Hradec Králové une nouvelle version de l'Odyssée. Cette adaptation originale du chef-d'œuvre d'Homère pour les planches est une tentative de dépoussiérer le vieux classique et de faire subir à Ulysse une cure de rajeunissement. Quatre comédiens seulement, Renato Giuliani, Raphaël Le Guyon, Ismahan Yakini et Tony Mpudja se partagent les innombrables rôles de ce spectacle et incarnent les dieux, les humains et les monstres qui peuplent l'épopée d'Homère. Ils ont apporté à ce spectacle leur talent, leur versatilité, leur esprit de jeu et leur humour. Pour Tony Mpudja, cette production est aussi une tentative de donner corps à un personnage hors du commun, un héros littéraire ressuscité grâce à la magie du théâtre.
Je pense que c'est un personnage qui fait rêver, parce que c'est un personnage qui endosse des sensations et des sentiments humains complètement exagérés pratiquement. Il est très courageux, il n'est pas seulement courageux, il est très courageux, il n'est pas seulement vaillant, il est très vaillant, il n'est pas seulement rusé, il est très rusé. Donc il est très beaucoup de choses, donc je trouve que c'est un personnage vraiment de théâtre, enfin au théâtre, qui a toute sa place, parce que l'Odyssée d'Homère n'est pas une pièce de théâtre, c'est un roman d'Homère, et donc nous on en a fait une pièce de théâtre, donc le personnage d'Ulysse n'était pas un personnage de théâtre à la base. Sur scène, il vit, on le voit. Et d'ailleurs, la pièce de l'Odyssée, mise en scène par Irina Brook, fait aussi ce travail-là d'imagination. Il y a un banc, et avec un banc et un tapis blanc, comment on va réussir à raconter cette histoire, celle d'Ulysse, et aussi l'histoire de la Grèce, de la mythologie grecque, à ce moment-là. Donc c'est ça qui est extraordinaire.
C'est à Raphaël Le Guyon qu'Irina Brook a confié le rôle d'Ulysse dans ce spectacle d'un rythme rapide et qui raconte les choses graves avec un humour souvent irrésistible.
Alors, mon rôle dans le spectacle est celui du personnage d'Ulysse, qui est avec ses compagnons, avec Achille et Hercule, et le professeur. Et donc, en fait, Hercule est celui vraiment sur qui je peux compter. Et les deux autres, je peux compter sur eux, mais ils font toujours des bêtises, ils veulent toujours manger. La difficulté, je dirais, de ce rôle-là, vu que c'est pas ma nature, c'est d'être un peu... C'est pas question d'être autoritaire, mais d'être moteur, en tous les cas, voilà, au fil de ces aventures. Je dois être le moteur, ça doit aller vite. C'est une pièce qui dure une heure et il se passe plein de choses pendant une heure. Je dois retrouver ma femme, Pénélope, qui m'attend. Il y a tous ces prétendants qui arrivent, tous aussi beaux les uns que les autres. Des jeunes, des vieux, des Gallianos, des gens de la mode, des gens qui font du fromage. Enfin, ils sont tous autour d'elle. Et elle n'en peut plus. Et elle leur répète, j'ai un mari, il va venir. Elle garde espoir. Et moi, je garde espoir, bien sûr, de finir par la retrouver.
Raphaël Le Guyon a apporté au rôle d'Ulysse son énergie, son tempérament et sa jeunesse et a essayé de greffer tout cela sur le personnage du héros classique dans une production qui marie la mythologie et la modernité.
Je suis toujours à cheval, finalement, entre le Ulysse, vraiment, de la mythologie que je dois incarner comme un guerrier, etc. Mais en même temps, je suis au départ un élève, parce que je dois préciser que le début du spectacle, nous sommes des élèves, nous écoutons notre professeur qui arrive pour un cours sur l'Odyssée, la mythologie grecque, et nous, on en a marre, quoi. Parce que nous, on veut raconter l'Odyssée à version jeune, en fait, comme on dit dans le spectacle, à notre façon, à nous. Donc c'est vrai, il y a beaucoup d'aller-retour entre la modernité et le passé. Et je dirais qu'en fait, l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre ça, justement, parce que nos costumes, déjà, sont très modernes, on est habillé comme dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire là comment je suis habillé, c'est les baskets que j'ai dans mon spectacle, mon compagnon pareil, je crois que c'est les mêmes chaussures aussi, on va pas dire la marque, et donc voilà, et tout en étant dans cette modernité, on est des élèves qui rentrent vraiment dans ça y est, on devient ces personnages, et donc on est comme des enfants qui jouons à faire ça pour de vrai en fait, et je dirais que c'est tout l'état d'esprit d'Irina Brooke qui travaille vraiment sur cette chose de l'enfance et du jeu et de l'amusement et du vrai quoi.
Ismaël Yakini passe avec une facilité époustouflante d'un rôle à l'autre. Elle est tantôt une Circé sensuelle et perfide, tantôt une Pénélope fidèle et astucieuse, tantôt un Cyclope borné et anthropophage. Voici comment elle voit la méthode de mise en scène d'Irina Brooke.
Quand il y a un texte, on part du texte, mais après, elle le réadapte. C'est-à-dire que, en fait, ça dépend. Parce que l'Odyssée, c'est vraiment une vraie création collective qui est arrivée avec nos mots à nous. Et on lisait, on a lu les 24 chants de cette épopée. Et puis, tous les jours, elle nous disait, on va travailler sur cet épisode, le Cyclope. Donc, lisez-le et improvisez-le. C'est des jeunes qui jouent à le raconter. Dernièrement, on a monté La Tempête de Shakespeare, où là, on avait vraiment le texte de Shakespeare. Donc, on l'a retravaillé sur certains passages, comme on le faisait à 5 personnages, et puis qu'elle a lié des liens entre les personnages, donc on a inventé à l'intérieur, mais sinon la trame et le texte de Shakespeare est resté le même. Donc sa méthode de travail, c'est beaucoup de liberté, beaucoup d'improvisation, on se réapproprie les choses, elle fait qu'on invente autant qu'elle invente en fait, parce qu'elle nous laisse beaucoup d'espace de liberté pour inventer. Et donc quand on part de l'Odyssée, on improvise tous les jours, après il y a quelqu'un qui note tous les jours, et puis on revient dessus et on retravaille. Ça fait des allers-retours entre le plateau et un petit peu la table. Elle travaille pas trop autour de la table, Irina.
Il n'est pas facile de présenter un spectacle devant un public étranger, un public qui ne comprend pas la langue des acteurs et qui n'arrive pas toujours, malgré les surtitres, à apprécier l'humour des répliques. Ismaël Yakini constate pourtant que lors de la représentation que la compagnie Irina Brooke a donnée au Festival des théâtres des régions européennes à Hradec Králové, cette barrière des langues et d'incompréhension a été abattue.
Pendant toute la durée de la représentation, c'était assez étrange parce que on avait le sentiment qu'ils étaient à l'écoute et en même temps tout était en décalage parce que comme c'est un spectacle qui est beaucoup sur le rythme et c'est une partition musicale très rythmée et avec beaucoup de gags, de jeux de mots et les surtitres allaient pas aussi vite parfois ou peut-être voilà, c'est la difficulté des surtitres et du coup il y avait quelques rires mais moi de l'intérieur je me disais est-ce que ça leur plaît ou pas et de temps en temps je sentais que moi dans mon rythme intérieur j'essayais de ralentir un peu pour laisser le temps de la compréhension et du va-et-vient entre là-haut et puis nous, notre jeu sur scène. Et à la fin, on a eu une vague d'applaudissements, mais d'une chaleur, d'une générosité. C'était juste incroyable. Pendant 5 minutes, on est venu, je ne sais pas, pour 8-9 rappels et ça n'a pas arrêté d'applaudir. Et donc, du coup, ils ont aimé, en fait.
Voilà, et c'est déjà la fin de ce programme qui était donc préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Ahoy.